Bonjour, chers amis auditeurs. Bonjour Marie-Madeleine, que nous retrouvons pour l'émission Église du Lot aujourd'hui et pendant toute l'année, bien sûr.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Alors, la semaine dernière, nous étions dans l'église Saint-Barthélemy de la paroisse de Cahors. Nous y restons encore parce que nous n'avons pas tout à fait terminé. Et nous avions terminé par la gloire qui se trouve au-dessus de l'autel, dans la première chapelle à gauche, côté ouest. Et là, Marie-Madeleine, nous enchaînons avec les peintures qui se trouve bien au-dessus.
Voilà, sur la voûte.
Voilà, tout à
sur
fait.
Sur la voûte, donc, qui est, elle, datée.
Ah.
On a une date pour les peintures de cette voûte, 1787. Donc, j'ai dû dire dans l'émission précédente que cette chapelle datait du 13e siècle, mais elle a été remaniée à plusieurs reprises au cours des siècles, bien sûr, et en particulier la voûte qui a été peinte donc au 18e siècle. Et on y voit sur cette voûte donc les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Et précise, peintures Marie-Madeleine sont très très bien conservées visiblement.
Oui, elles ont été restaurées
voilà.
Mais elles sont très bien conservées sur un fond bleu avec des ornements divers dorés et les médaillons donc qui renferment les effigies des quatre évangélistes avec leurs attributs. Matthieu, l'homme qui est tout petit là. Marc, le lion, Luc, le taureau et Jean, l'aigle. Voilà. Donc cette voûte est assez belle puisqu'elle est bien conservée. Donc dans cette chapelle, donc nous avons parlé de la Pietà, des reliquaires il y a toute une sorte de mobilier qui est un peu arrangé à la va-vite, nous allons dire. Mais il y a surtout aussi un tableau qui représente ce que l'on appelle une sainte conversation, c'est-à-dire que c'est un dialogue entre des personnages qui n'ont pas vécu à la même époque, historiquement.
Ah, très bien.
Voilà, donc on y voit la Vierge, c'est la Sainte Famille en fait, la Vierge au centre, portant l'enfant Jésus sur son bras gauche, et à l'arrière, à la droite de la Vierge, Saint Joseph qui tient un lys. Et devant, donc la Vierge tend le bras vers Saint Dominique, que nous avons sur notre gauche, et l'enfant Jésus s'adresse à Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus.
Ah, c'est anachronique.
Ah oui, tout à fait, des saintes conversations, ce sont des tableaux anachroniques, voilà. Alors, c'est un tableau du XVIIe, nous le voyons tout de suite, puisqu'il y a un petit angelot qui se trouve sur le manteau de la Vierge et ce manteau englobe à la fois Saint-Dominique et Sainte-Thérèse de Lisieux et Sémonial.
Ce tableau paraît un peu sombre.
Il est sombre, oui. C'est-à-dire que le vêtement démonial n'est pas clair. Mm-hmm. Quand même, le blanc des voiles, ressort sur la bure marron. Mais il y a les voiles noires, donc c'est quand même assez sombre. Mais le fond, derrière la Vierge, est tout rayonnant. Rayonnant et illuminé
par la lumière divine.
Ça
fait contraste avec le reste du tableau au-dessus ou sur les côtés.
Absolument. Alors, dans cette chapelle, on peut y trouver aussi donc, le buste de Jean XXII, puisque cette chapelle est dédiée au pape Jean XXII,
voilà.
Jacques d'Huez. Donc, c'est un buste en plâtre du XIXe siècle qui montre le faciès assez ascétique du pape Jean XXII. Qui était petit et maigre. Et puis, il y a aussi un tableau qui représente également le pape et qui est une copie d'une fresque qui se trouve à Avignon. Voilà. Donc, ce sont les éléments marquants de cette chapelle. On peut y ajouter un petit baptistère des années 60 dont l'émail a été réalisé par une certaine mademoiselle du jardin de Praïssac et qui raconte la vie du pape.
D'accord, donc très, très, très 20e siècle.
Voilà, très contemporain. Alors, on peut passer dans la chapelle suivante.
Oui, qui est la chapelle de la Vierge.
C'est la chapelle de la Vierge. Donc, c'est la deuxième chapelle à l'ouest. Et nous y voyons donc, évidemment, ce qui attire le regard quand on est devant cette chapelle, c'est une Vierge au fond, au-dessus de l'autel, entourée de Saint Dominique et d'un personnage qui tient un cœur enflammé. C'est Sainte Marguerite Marie à la coque. À la coque. En un seul mot. Voilà. Alors, cette chapelle, elle est donc 19e, celle-ci. Le décor de cette chapelle est 19e. On sait qu'au 19e, il y a eu un renouveau du culte marial et aussi du culte du Sacré-Cœur. Alors, Marguerite Marie à la coque était une moniale du XVIIe siècle et qui a eu la révélation du Sacré-Cœur et qui a été aidée en cela par son confesseur Claude la Colombière. Et donc, elle est représentée ici à droite tenant le Sacré-Cœur. Et à gauche, donc, nous avons Saint Dominique à qui la Vierge remet le rosaire. Le culte du rosaire, la pratique du rosaire, a été relancée par Saint Dominique au XIIIe siècle.
D'accord. Vous disiez qu'au XIXe siècle, il y a eu un renouveau du culte marial. Est-ce que c'est dû aux apparitions
Certainement.
De la Vierge
Elles
à Lourdes
ont concouru.
Oui, Elles ont concouru.
Bien sûr, bien D'accord. sûr, bien sûr.
Vierge à Lourdes et
oui, oui.
aussi...
Notre-Dame de la Salette.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, toutes ces apparitions qui ont eu lieu au XVIIIe siècle, donc c'est ça. On peut dire cela.
Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pour cela que dans cette chapelle consacrée à la Vierge, nous avons ces deux personnages importants dans la vie de l'Église. Donc, Saint Dominique et Sainte Marguerite Marie à la coque. Alors, sur les murs sont représentés ce que l'on appelle les litanies de la Vierge. Et donc, on peut y retrouver les litanies classiques. Les litanies classiques du miroir de justice, du vase honorable, de la rose mystique, de l'arche d'alliance, de la porte du ciel, de l'étoile du matin, la tour de David, la maison dorée, etc. Il y en a beaucoup de litanies de la Vierge, mais elles ne sont pas toujours toutes représentées, bien sûr, parce qu'il faudrait des murs et des murs. Voilà. Mais ici, nous en avons un certain nombre, dans un décor tout à fait 19e. Et alors, au-dessus de ces litanies, nous trouvons la représentation du don du rosaire à Saint-Dominique,
D'accord.
par la Vierge, des deux côtés. Et au plafond, eh bien, la voûte est ornée de scènes des mystères joyeux de la Vierge, avec l'Annonciation, la Visitation, la fuite en Égypte, qui est un mystère douloureux, et l'adoration des bergers.
D'accord.
Voilà.
Effectivement, on ne voit pas tout. Enfin,
merci
de nous faire cette visite,
voilà.
parce qu'on y passe vraiment trop vite et on ne voit pas forcément tous ces détails et tous ces éléments essentiels.
Et on ne pense pas à lever les yeux.
Absolument.
Voilà pour. Alors, j'ajoute que pourquoi Saint-Dominique à Cahors, il y a eu une implantation des Dominicains au XIIIe siècle. À l'emplacement de l'église du Sacré-Cœur à l'heure actuelle. Et évidemment, les Dominicains ont proliféré dans la région. Hein. Et l'église du Sacré-Cœur, enfin l'abbaye qu'il y avait fondée par les Dominicains, était une des plus grandes abbayes de l'époque dominicaine. Donc ça explique pourquoi le culte à Saint-Dominique également.
D'accord.
Alors nous allons peut-être passer dans la troisième chapelle.
Donc toujours celle, toujours à gauche, côté ouest. Alors, dans cette chapelle, il y a plusieurs éléments également, plusieurs
Alors, il y a surtout des tableaux. Voilà. Il y a des tableaux. Alors, on va peut-être commencer par la gauche, quand on regarde cette chapelle. C'est un épisode qui n'est pas raconté dans l'Évangile, qui est raconté dans les Évangiles apocryphes, dont les peintres se sont inspirés suite à l'édition de la Légende dorée au XIIIe siècle, par Jacques de Voragine, qui était un dominicain, lui aussi, et qui a raconté la vie des saints à son époque. Alors évidemment, tous les saints qui sont postérieurs au XIIIe siècle n'y sont pas. Mais il a donc raconté que les parents de la Vierge, Anne et Joachim, ou Joachim, moi je dis Joachim, mais bon, voilà, étaient tellement tristes de ne pas avoir d'enfants que chacun de leur côté, ils ont reçu un songe comme quoi ils devaient aller à la porte dorée de Jérusalem, qui existe toujours, côté est, vers le mont des Oliviers, et d'y aller, voilà. Donc ils y vont, mais je pense qu'ils y vont séparément. Et ils se rencontrent là. Ils se rencontrent. Et évidemment, ils s'aiment toujours, c'est pas le problème. Mais donc, ils s'embrassent, dit la légende dorée, et de là est née la Vierge Marie. La conception, d'abord, de la Vierge Marie et sa naissance. Voilà. Alors, ici, le peintre du XVIIe siècle a représenté les deux personnages, donc Anne à gauche, Joachim à droite, devant la porte dorée que l'on voit au fond. La porte est en bois doré, entouré d'une architecture en pierre, suivie derrière laquelle on voit un jardin avec une fontaine qui est source de vie. La fontaine, symbole de la vie. Et au-dessus, un nuage très doré, avec la lumière divine, dans lequel on retrouve Dieu le Père qui bénit la petite Marie. On dirait une petite moniale, elle est représentée en aube blanche, mais en fait, si on s'approche, ce sont ses cheveux qui tombent dans son dos, ce n'est pas un voile. Voilà, c'est Dieu le Père qui bénit la petite Marie. Voilà pour l'histoire de la rencontre à la porte dorée entre Anne et Joachim, les parents de la Vierge.
Le tableau est superbe, en tout cas.
Oui, et puis il a été restauré, il est en bon état. Alors ensuite, nous trouvons un autre tableau qui représente Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, donc là, il est représenté tout à fait classiquement, avec donc debout, tenant un livre, puisqu'il a écrit des lettres, et tenant le fameux bourdon du pèlerin, c'est-à-dire le bâton du pèlerin, à laquelle est accrochée la gourde du pèlerin dans une coloquinte. Voilà, il est en bleu, en jaune, il a un grand chapeau derrière lui, dans son dos. Voilà ce qu'on peut dire avec une petite perspective d'une église derrière, voilà, et des arbres.
C'est vrai qu'on ne l'aperçoit pas très bien parce qu'il est un peu sombre.
Oui, enfin, il y a plus sombre quand même, il y a plus sombre. Alors ensuite, nous avons un tableau représentant Charles Borromée. Saint Charles Borromée, qui était donc un prélat du XVIe siècle, qui a eu une action prépondérante pour le Concile de Trente. Je rappelle les dates du Concile de Trente, 1545-1565. Et donc Charles Borromée a en particulier promulgué le catéchisme à cette époque, qui changeait tout à fait la vie des fidèles. Parce que le Concile de Trente a... Il faut situer les dates, mais le XVIe siècle, qui est le siècle de la contre-réforme catholique, la réforme catholique plus exactement, contre le protestantisme, qui était très virulent à l'époque. Et enfin, qui commençait, mais enfin, qui avait bien pris de l'ampleur. Et donc, le Vatican a décidé de faire ce concile de Trente pour s'opposer à cette hérésie, comme on disait à l'époque. Et Charles Borromée en a été un acteur principal. Et donc, il a édité ce catéchisme. Il a ensuite réformé le rite de la liturgie, enfin la liturgie. C'est pour ça qu'on parle de messe de Saint Charles Borromée. Donc, cette réforme a été très importante. Et pourquoi ce tableau se trouve-t-il là? Parce qu'il faut dire que l'église Saint-Barthélemy a été, au XVIIe siècle, sous l'épiscopat d'Alain de Solmignac, la chapelle, l'église du grand séminaire que l'évêque avait fondée à ce moment-là pour réformer l'église du Quercy et attirer des jeunes gens pour devenir prêtres. Donc, Saint-Barthélemy devenant l'église du grand séminaire, il fallait donner des exemples de cette contre-réforme, on y était en plein. Et Alain de Solmignac a commandé des tableaux représentant les principaux acteurs de ce concile de Trente, un siècle avant lui. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'on trouve ce tableau de Charles Borromée. Et on trouve également le tableau à côté, qui est Saint François de Sales. Saint François de Sales était un prêtre d'Annecy, enfin voilà, alpin, disons, et il a été évêque de Genève. Mais il n'a jamais siégé à Genève parce que les calvinistes sont opposés à sa venue à Genève. Voilà, donc on était en pleine contre-réforme. Hein, voilà. C'est pour ça également que nous trouvons ce tableau ici, pour magnifier la contre-réforme. Et Saint-Barthélemy a été en fait, l'église Saint-Barthélemy a été en fait un modèle pour le diocèse du Quercy, pour cette contre-réforme, a été vraiment le socle à partir duquel sont parties toutes les réformes dans le rural, dans les paroisses rurales.
Et donc il y a également un grand
Alors il y a un autre tableau qui fait pendant, si vous vous souvenez bien, à la chapelle qui est en face, où il y a le tableau de Saint-Augustin. Mm-hmm. Alors, les avis sont partagés. Le mien l'est moins, mais ce n'est que le mien.
Vous allez me donner le vôtre.
Alors, on a dit que le personnage, cette moniale qui est représentée sur ce tableau, serait peut-être la mère de Saint-Augustin, Sainte Monique, qui a beaucoup travaillé auprès de son fils pour qu'il se convertisse, parce qu'il a eu une vie quand même jusqu'à 35 ans, très mouvementée. Mais je n'y retrouve pas d'éléments, si vous voulez. Par contre, on retrouve des éléments de la vie de Sainte Thérèse d'Avila, qui avait une vénération très forte pour le Christ. Et ce personnage-là est représenté devant un autel, à genoux devant un autel, et devant la croix du Christ, devant un crucifix. Et le Christ est vraiment pendu sur cette croix, mais de façon très, très humaine. Et on sent la vie dans ce Christ. Et les yeux de ce que j'appelle Sainte Thérèse d'Avila sont vraiment très émouvants. Elle pleure devant ce Christ. Et elle a d'ailleurs un linge blanc dans la main gauche pour essuyer ses yeux. Hein, voilà. Elle est dans peut-être sa chapelle privée avec cet autel, mais il y a une ouverture vers une ouverture très assez grande vers une construction en ruine. C'est la construction en ruine de l'église un peu à cette époque-là au XVIIe siècle, hein, moi je penche pour Sainte Thérèse d'Avila, mais je peux me tromper.
Eh ben écoutez, nous vous suivons là-dessus.
Par contre, ce qui a peut-être induit en erreur les personnes qui disent que c'est Sainte Monique, c'est le cadre qui entoure cette peinture, parce que c'est le même cadre entoure Saint-Augustin. Donc c'est un pendant et on a cru que ça pouvait être sa mère.
Oui, ceci pourrait expliquer cela, d'accord. Mais voilà. Il est rempli de symboles, enfin, quand vous dites cette église en ruine, enfin, ce bâtiment en ruine qui peut représenter l'église.
Oui, absolument, et qu'il fallait réformer, donc la réforme catholique était là. Voilà.
Alors, nous allons terminer peut-être par la dernière chapelle.
Oui.
Donc, alors, la quatrième à gauche, côté ouest, où il y a également... Alors là, il y a des peintures.
Alors,
un tableau, certes, mais il y a aussi quelques peintures.
Il y a le tableau, donc, que l'on ne voit pas quand on s'avance dans l'église.
Absolument, pas du tout. Même.
Il est sur le côté sud de cette chapelle. Et c'est ce qu'on appelle l'apothéose de Saint-Vincent de Paul. Alors, troisième personnage qui fait penser à la contre-réforme, hein. Saint-Vincent de Paul, évidemment.
Mais donc, ces trois personnages, Saint-Vincent de Paul,
Saint-Charles Borromée
et
Saint-François de Sales,
sont les contemporains de l'évêque Alain de Solménie.
Alors, Charles Borromée, non, un siècle avant. D'accord. Il est du Concile de Trente, lui. Voilà. Il est contemporain du Concile de Trente, Charles Borromée. Mmh. Mais Saint-François de Sales et Saint-Vincent de Paul, oui. Voilà. D'ailleurs, il y a une correspondance entre Alain de Solménie et Vincent de Paul.
Tout à fait.
Et donc, sur ce tableau, nous voyons ce qu'on appelle une apothéose, c'est-à-dire un triomphe, c'est-à-dire la montée au ciel de Saint-Vincent de Paul. Le terme d'apothéose est tiré un peu de l'Antiquité. Hein. Apothéose des dieux, des héros vers les dieux. Hein. Et là, c'est un héros de l'Église, bien sûr, mais qui monte vers le ciel. Et donc, Saint-Vincent de Paul est emporté au ciel par des petits anges bien grassouillés, comme le veut l'époque, et puis aussi des têtes d'anges ailées. C'était tout à fait significatif de cette époque du XVIIe et de la contre-réforme. Et alors, il monte au ciel vers un triangle qui symbolise la Trinité, et dans lequel sont trois lettres hébraïques, mais que je ne saurais traduire, mais qui signifient le nom de Dieu. Voilà pour ce tableau. Et alors, en face de ce tableau se trouve une peinture un peu énigmatique. C'est un fragment. C'est un fragment de peinture. C'est une sorte de fêtage avec un buisson enflammé au-dessus. Alors, ça peut être ce que l'on appelle en grammaire des arts, le pot-à-feu, mais je n'en comprends pas la signification là, si vous voulez, parce que c'est trop effacé.
Voilà, c'est vrai que lorsque nous sommes tournés vers le cœur, c'est ce que nous apercevons, nous ne voyons pas le tableau dont vous venez de parler, mais nous apercevons ce fragment de peinture.
Voilà.
Eh bien, écoutez, Marie-Madeleine, peut-être que vous avez encore quelque chose à dire.
Il faut aller au fond de l'église.
Il faut aller au fond
à l'entrée, mais se retourner. Quand on rentre, il faut se retourner et contempler deux tableaux. Donc, un petit tableau qui se trouve à gauche de l'entrée et qui représente Sainte-Anne et la Vierge. Sainte-Anne faisant l'éducation de la Vierge. Alors, Sainte-Anne est assise et la Vierge est debout à ses côtés, tout en blanc, tenant un livre et le lisant sagement. Et la Sainte-Anne a un joli visage, là, elle écoute sa fille lire. Alors c'est un tableau du 19e siècle, de 1851 exactement, qui a été peint par la peintre Élise Moisson des Roches. Voilà pour ce tableau. Et ensuite, eh bien, à droite, nous avons une représentation de Saint-Jacques devant la Vierge, c'est ce qu'on appelle le Saint-Jacques, la Vierge au pilier plutôt. Mm-hmm. La Vierge au pilier parce qu'elle est juchée sur une stèle de marbre, hein, c'est assez curieux, mais c'est une légende espagnole plutôt, hein, voilà, que Saint-Jacques aurait rencontré la Vierge juchée sur une stèle, sur un pilier, voilà. Donc on y voit une belle perspective de paysage.
Mais écoutez, nous terminons cette visite guidée radiophonique de l'église Saint-Barthélemy de Cahors. La semaine prochaine et la semaine d'après, nous enchaînerons sur les églises de Francoulès et de Saint-Pierre-Liversou, où nous serons en fin de semaine avec Clémentine Baudry qui nous fera cette visite. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci, Marie-Madeleine, mais nous vous retrouvons quand même la semaine prochaine, justement, et la semaine d'après aussi, pour ces deux églises que je viens de citer. Merci, chers amis auditeurs. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Bon.